ich möchte aus Anlass des Tages und der Zeit, in der wir jetzt ja.
À l'occasion de ce jour et du temps dans lequel nous sommes arrivés, je voudrais lire l'histoire de la naissance du Seigneur dans Luc 1. Luc 1, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu en Galilée, dans une ville appelée Nazareth, à une vierge fiancé à un homme nommé Joseph de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Elle fut bouleversée de cette salutation et se demanda ce qu'elle signifiait. Alors l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sache bien que tu deviendras enceinte de bonne espérance et mère d'un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Celui-ci sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et Dieu, le Seigneur, lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob dans toute éternité et sa royauté n'aura pas de fin. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela serait-il possible? Je ne connais pas d'homme. » Alors l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainteté qui doit naître de toi sera appelée Fils de Dieu. Et maintenant, sache qu'Élisabeth, ta parente, a aussi été bénie malgré son âge avancé avec un fils. Et elle est maintenant dans son sixième mois, elle qu'on appelle stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se sépara d'elle. À ce sujet, la parole du prophète Ésaïe, au 9e chapitre, du verset 1. Le peuple, Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marche dans les ténèbres verra une grande lumière. La lumière brillera sur ceux qui habitent le pays des ténèbres. Le verset 2, tu créeras des grandes réjouissances. Tu rendras la joie immense. On se réjouira devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on se réjouit du partage du butin. Verset 3, car le joug qui pesait sur eux, les barres sur leur cou, le bâton de leur conducteur, tu le brises comme autrefois au jour de la bataille des Madianites. Verset 4, oui, toutes les bottes des guerriers rugissant et les manteaux trempés de sang seront brûlés au feu dévorant. Verset 5, car l'enfant nous sera né, le fils nous sera donné, sur l'épaule duquel reposera la domination et son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu vainqueur, Père éternel, Prince de la paix. Verset 6, sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David et pour sa royauté, l'établissant et la soutenant par la justice et l'équité, dès maintenant jusqu'à dans l'éternité, le zèle de l'éternité. Du Seigneur des armées accomplira cela. Le verset 7, le Tout-Puissant a envoyé une parole contre Jacob et elle s'est abattue sur Israël. Verset 8, et tout le peuple le ressentira. Éphraïm et les... Donc jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur d'être venu jusqu'à nous. Ce n'est que grâce à cela que nous avons eu la possibilité d'aller à lui. Et c'est en fait la seule parole dans ce contexte que nous trouvons avec le terme de vierge. Et si nous lisons déjà cette parole ici, l'ange du Seigneur ou l'ange Gabriel est venu à la vierge. En ce temps, on se demande toujours, à propos de Matthieu 25, qui sont les vierges, quel est le contexte. De même qu'ici, une vierge a été couverte par le Saint-Esprit et que la parole de Dieu s'est faite chair en elle par ce même Saint-Esprit. De même, cette même parole de Dieu de la promesse est déposée dans tous les vrais croyants de ce temps par le Saint-Esprit. C'est une partie de ce que Dieu amène à l'exécution et à la réalisation en ce temps selon son plan de salut. Et comme à l'époque, voici qu'un ange vient et nous savons que dans toutes les sept lettres d'envoi, il est écrit, et écrit à l'ange de l'Église. Et à la fin, il est dit, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à dire aux églises, à dire aux églises. L'Esprit révèle la parole de la promesse, la dépose dans notre cœur et la rend vivante afin qu'elle puisse être crue, voire porter du fruit et réaliser en ce temps ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes et ce qu'il a promis par grâce. Marie était en fait une image inversée de ce qu'Ève vivait autrefois. Ève n'était pas vierge lorsqu'Adam l'a rencontrée et Paul dit dans un verset, probablement dans 2 Corinthiens 11, « Je crains pour vous que de même que Satan a trompé Ève, de même votre attitude envers Christ ne soit trompée. » Et ici, nous voyons une vierge. Elle pouvait dire, « Je ne connais aucun homme. » Ainsi, pas de la volonté d'un homme, mais son né de Dieu. Nous avons ici la comparaison avec la naissance de Jésus. Il n'est pas né de la volonté d'un homme, ni de manière naturelle, mais de manière surnaturelle. La parole du Seigneur a été prononcée, le Saint-Esprit est venu et il a été dit, « Celui qui naîtra de toi est du Saint-Esprit et il sera appelé Fils du Très-Haut. » De même, tous les vrais croyants n'ont pas la volonté d'un évangéliste ou par la parole d'un prédicateur, mais par la volonté de Dieu, par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, ont été engendrés et sont nés de nouveau pour une espérance vivante. Et ils peuvent dire « Abba, cher Père ». Et c'est pourquoi il est écrit du Seigneur Jésus qu'il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et d'annoncer et de révéler son nom à ses frères, car nous avons été engendrés du même esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a pu dire, « Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu, parce que nous avons été engendrés du même esprit et sommes devenus des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est notre attitude maintenant en tant que vrai vierge, sage en ce temps, de ne pas recevoir en nous une autre semence, de ne pas nous souiller de quelque manière que ce soit. Nous pouvons dire tranquillement, nous ne connaissons aucun homme aussi dans ce temps, mais nous savons une chose, le Saint-Esprit est venu sur nous et a révélé la parole de la promesse, nous l'avons cru et nous pouvons en faire l'expérience. Que quelque chose de nouveau est né par la grâce de notre Dieu, non pas selon la volonté d'un homme, mais selon la volonté de Dieu. Né de nouveau pour une espérance vivante, et c'est notre consolation et notre assurance dans toutes les situations de notre vie. Dans cette parole exposée ici, nous voyons le Seigneur devenir homme. Celui qui était esprit est venu dans la chair, est sorti de lui-même et a pris la forme de serviteur, est devenu semblable à nous et a été trouvé comme un homme en toutes choses. Mais il en va de même pour nous spirituellement. Quand nous quitterons ce monde, nous serons changés à son image, tout comme il a quitté l'au-delà et a été changé à notre image. De même, nous serons changés à son image au moment où le temps et le moment seront venus et où le Seigneur lui-même achèvera son œuvre avec nous tous. Ici, il est devenu semblable à nous. Là, nous serons semblables à lui là-bas. Les Saintes Écritures disent, 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons cependant que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Ici sur terre, il a mangé, il a bu, il a été trouvé en toutes choses comme un homme. Là-bas, dans la gloire, tous ceux qui ont reçu en eux la parole de la promesse, ceux sur qui le Saint-Esprit a pu venir. Et c'est là, à mon avis, la différence en ce temps entre les vierges sages et les vierges folles. Les sages ne se souillent pas. Elles s'en tiennent à la parole révélée et destinée à ce temps, et le même Esprit Saint est venu sur elles, a pu créer quelque chose de nouveau en elles. Pour les autres, ce ne sera pas le cas, car elles ne peuvent pas se taire, rester tranquilles, elles ne peuvent pas attendre. Nous voyons déjà à l'époque d'Abraham qu'il est très beau de recevoir une promesse, mais qu'il est un peu plus difficile de l'attendre. Et nous entendons régulièrement dans la prédication qu'il a persévéré. Et c'est vrai, mais vous connaissez l'histoire d'Ismaël qui se situe entre les deux. L'histoire avec Ismaël est entre les deux. C'était la détresse autrefois, c'est la détresse jusqu'aujourd'hui. Tous deux étaient fils d'Abraham, mais l'un était selon sa volonté, où vous connaissez toute l'histoire. L'autre était en vertu de la promesse que Dieu avait faite. Et la haine était entre eux dès le début. Il n'y avait pas de compréhension, et quand il a fallu hériter, l'un est reparti bredouille et l'autre a hérité de tout, parce qu'il était venu conformément à la promesse de Dieu. Et il en va de même dans ce temps. Nous ne voulons pas nous retrouver sans promesse. Nous voulons être héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Et nous voulons que le Saint-Esprit vienne sur nous tous de manière puissante. Nous n'avons aucun doute à ce sujet, mais nous croyons que tous ceux qui reçoivent la parole de la promesse pour leur temps, il se passe quelque chose en eux par la grâce de Dieu. Le Seigneur ne peut pas faire autrement. De même qu'autrefois, un ange a été envoyé pour dire et apporter la parole de la promesse. De même, au cours des sept âges de l'Église, Dieu a chaque fois envoyé l'ange à l'Église ou pour l'Église afin de lui adresser la parole de la promesse. Et lorsque la parole a été prononcée, le Saint-Esprit était présent pour la rendre vivante, pour faire advenir quelque chose de nouveau. Nous savons que dès le début, il est écrit que l'Esprit de Dieu planait sur l'abîme et que lorsque le Seigneur a parlé, cela s'est produit. L'Esprit de Dieu agit, mais le Seigneur parle encore. L'Esprit de Dieu ne peut agir que lorsque la parole de Dieu est prononcée, la parole de la promesse dont nous avons besoin pour ce temps et que nous avons également reçu. Ici, le prophète Ésaïe l'exprime en ces termes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9, verset 1. En ce temps-là, l'avenir verra une grande lumière. Sur ceux qui habitent une terre obscure, la lumière se lèvera. Tu multiplieras les réjouissances. Tu feras grandir l'allégresse. Ils se réjouiront devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris de joie au partage du butin. Telle est notre part, frères et sœurs, dans le Seigneur. Pour autant que Dieu fasse apparaître la lumière dans les ténèbres et que nous la voyons, nous nous en réjouissons. Mais la lumière n'est pas donnée pour que nous l'admirions ou que nous regardions toujours dans la lumière, comme le font en Inde les adorateurs du soleil, qu'ils lèvent les yeux jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes aveugles. Quand un homme a été amené à Frère Branham à Bombay en Inde en 54, Frère Branham lui a dit son nom, qu'il était marié, qu'il avait combien d'enfants et tout ce qui était possible. Et il a dit, « Je vois que tu as été un adorateur du soleil sans doute pendant 18 ans et que tu es complètement aveuglé. » Cela peut arriver à des gens qui voient la lumière dans ce temps. Mais au lieu de se servir de la lumière et de s'orienter, de savoir où ils vont, de pouvoir regarder autour d'eux où ils sont, alors ils pensent qu'ils doivent regarder dans la lumière. Cela n'aide aucun homme, vraiment pas. Même dans l'Ancien Testament, lorsque le chandelier était allumé, On ne pouvait pas rester éternellement devant le chandelier et l'admirer. Il fallait déjà regarder la table avec les pains de proposition. Il fallait pouvoir voir ce que Dieu avait préparé dans le sanctuaire. Même parler de la lumière ne sert à personne, sauf si l'on soit... Si l'on sait s'orienter par la lumière et si l'on sait à quoi sert au fond la lumière qui est donnée, et alors on sait de quoi on doit être reconnaissant à Dieu. Juste un petit exemple ici. Le prophète dit déjà que la lumière brillera, mais après cela, il n'est pas écrit et ils regarderont dans la lumière, mais il créera beaucoup d'allégresse et la joie sera grande. Pourquoi ? On se repère dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière ne se heurte pas. Celui qui marche dans la lumière est en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Et il y a suffisamment de passages des Écritures qui parlent de ce qui est dans la lumière. Dans sa lumière, nous voyons la lumière et nous voyons la révélation de sa parole. Et nous pouvons alors dire, « Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Ce n'est donc pas seulement un entretien sur ces choses, ce n'est pas seulement une discussion, mais nous avons compris que la lumière est venue dans un certain but, celui de donner l'illumination de Dieu dans le sanctuaire afin que nous puissions voir tout ce qui nous est préparé. Et celui qui, une fois, aura bien regardé autour de lui dans le sanctuaire de Dieu et aura marché dans cette lumière, il y aura beaucoup d'allégresse chez lui. On se réjouira, il est écrit ici comme dans le partage d'un butin. Vous savez tous qu'autrefois, quand on faisait quelques farces dans la jeunesse et qu'on avait quelque chose à distribuer, cela se passait toujours très bien. Et combien plus dans les choses spirituelles, nous sommes heureux de pouvoir distribuer un butin. Car il y a eu une victoire quelque part. Nous avons atteint quelque chose. Nous avons gagné quelque chose. Le Seigneur a remporté la victoire à Gethsémani. Il l'a concrétisé à Golgotha. Il a fait de tous ses ennemis son marchepied et il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, afin que personne ne se décourage plus, mais que nous puissions distribuer le butin et nous réjouir. » Vous savez qu'à l'époque d'Abraham, lorsqu'il s'est mis en route pour saisir les rois et les vaincre, lorsque cette bataille était terminée, avant qu'ils aient pu distribuer le butin, le roi de Salem l'a salué et a célébré le repas avec lui. Dieu est un Dieu qui donne la victoire et qui guide et dirige les siens et leur révèle la droite de son bras. Je devais encore y réfléchir aujourd'hui. Il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, la droite du Seigneur est élevé. La droite du Seigneur garde la victoire. Et la parole m'est venue directement d'Apocalypse 1 où il est écrit, dans sa droite, il a les sept étoiles. Et les contextes qui vous viennent là sont si précieux quand vous réfléchissez au fait que la droite du Seigneur garde la victoire. Et après que tous ces sept messagers de Dieu ont apporté leur message, son bras droit n'est certainement pas tombé, mais la droite est élevée, la droite est étendue. Le Seigneur garde la victoire et il la révélera et la réalisera. Il fera éclater la joie et l'allégresse au milieu de son peuple à cause de ce qu'il a fait par grâce en ce temps. Nous ne dansons pas autour de la lumière, mais nous nous orientons, nous regardons de côté et d'autre et nous voyons ce que Dieu a fait par grâce. Et nous pouvons nous en réjouir. Celui qui chante le cœur compte le bien que Dieu t'a fait. Nous pourrions tous compter. Et plus nous compterions, plus nous pourrions énumérer ce que Dieu a fait en nous par grâce. Soyons des personnes semblables à Marie qui reçoivent la parole de la promesse. Même si nous sommes perplexes en ce moment, nous ne connaissons aucun homme. Soyons honnêtes, nous ne pouvons pas dire « Je suis avec Paul, je suis avec Pierre, je suis avec celui-là. » Nous sommes en Christ. Nous sommes avec Christ. Paul n'a-t-il pas dit « Je vous ai fiancé à un seul homme ?» C'est lui que nous connaissons, Jésus-Christ, notre époux. C'est lui que nous servons, c'est lui que nous aimons. Dans ce contexte, il m'est venu une autre parole qui est écrite en rapport avec Matthieu 25 ou qui y est même écrite. Il est dit que l'époux vient. Voici que l'époux vient. Si on lit pour le peuple d'Israël, pour eux, il est écrit, « Voici ton roi qui vient à toi humble, monté sur le bas d'une ânesse. » C'était « Voici ton roi qui vient. » Mais pour nous, il est dit, « Voici l'époux qui vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. » C'est une consolation très puissante pour tous ceux qui en ce temps ont compris de quoi il s'agissait. La parole de la promesse pour ce temps nous a été transmise par le messager et l'ange envoyé par Dieu qui a parlé au nom du Seigneur. Et nous y avons cru. Le Saint-Esprit est venu sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. Et le Fils mal naîtra comme la rosée de l'aurore à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, qui devait sortir comme le premier afin que nous puissions tous suivre son exemple. Marie a dit, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Nous ne pouvons que dire la même chose. Seigneur, nous sommes ton peuple. Qu'il nous soit fait comme tu l'as dit. Et que se passe-t-il? Il nous arrive comme il a dit. Oui ou non? Il nous arrive exactement comme il a dit. La révélation de sa parole. Tout nous est arrivé comme il l'a dit. Il ne laissera rien. Et si quelqu'un pense encore que Dieu doit faire quelque chose, ne vous inquiétez pas, il le sait aussi. Mais il est écrit, Isaïe 62, 6, vous qui devez la rappeler au souvenir du Seigneur, ne vous accordez pas de repos et ne lui accordez pas non plus de repos, ni le jour ni la nuit, jusqu'à ce qu'il se lève et réalise la parole. C'est à peu près écrit ainsi dans le prophète. Nous savons que nous pouvons lui rappeler avec amour ce qu'il veut encore faire et Dieu s'en réjouira. J'ai l'impression qu'il est sur le point de faire quelque chose assez rapidement pour la glorification et l'honneur de son nom. Donnons-lui de toutes les manières, au milieu de nous, la possibilité de mettre sa parole dans nos cœurs de telle sorte qu'il ne puisse absolument pas subsister la moindre étincelle d'incrédulité ou de doute, mais que tous ceux qui entendent en ces jours les paroles qui sont écrites et qui sont destinées à ce temps, les écoutent dans la foi, dans la confiance. Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit donnera vie à tout, qu'il créera tout et qu'il fera en sorte que tout soit bien avec chacun de nous comme il l'a fait avec Marie, que rien ne soit plus mélangé. Veillons à ce que ce soit la parole pure et sainte de Dieu, par laquelle une épouse pure et sainte sera présentée au Seigneur sans tache ni ride. Car si la parole que nous annonçons n'était pas pure, comment pourrait-il en sortir une épouse pure? Mais là où la parole de Dieu, pure, sainte, précieuse, éternelle, est proclamée, là, Dieu a sa voix, là, il manifeste sa puissance et sa gloire, là, il a dispensé sa bénédiction pour se manifester et se glorifier puissamment en ceux qui lui font confiance sans partage. C'est notre désir en ce moment, dans ce temps, de ne rien mélanger, mais de laisser ta parole telle qu'elle est écrite et il la mettra à exécution en ces jours. Pour ceux qui souhaitent être baptisés aujourd'hui, il faudrait encore dire très brièvement que le baptême biblique n'est pas seulement une forme que nous subissons, mais qu'il s'agit d'une ordonnance que le Seigneur lui-même a donnée. Et selon la parole de Dieu, en particulier selon ce qui est écrit dans Romains 6, le baptême symbolise l'ensevelissement avec Christ, l'élévation hors de l'eau, une résurrection avec Christ pour une vie nouvelle, de sorte que le vieil homme est mort à tout ce qu'il était et que l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté juste, que nous vivons dès lors pour et avec Dieu le Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas seulement que les paroles prononcées soient justes. Ce qui compte, c'est que la vie soit en ordre lorsque l'on est baptisé. Là aussi, il se peut que quelqu'un dise, « Bon, je vais me faire baptiser selon la Bible. » C'est vrai, c'est juste. Mais ce n'est pas Ce n'est peut-être que la moitié de la question. La deuxième moitié serait que notre propre vie soit en accord avec la parole que nous voulons accomplir maintenant et que nous ayons trouvé grâce devant Dieu de toutes les manières de marcher en vérité avec Dieu. Comme Pierre l'exprime dans un verset, le baptême est l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Cela aussi doit être là. Il ne sert à rien de dire seulement « je veux que les mots justes » ou certains disent la formule juste soit utilisée. Ici, on n'utilise pas de formule, mais des mots justes, la parole juste. Mais nous voulons que tous ceux qui se font baptiser aient bien compris de quoi il s'agit, que ce n'est pas seulement un acte que nous accomplissons ici, mais qu'il est accompli sur l'ordre de Dieu, que c'est une demande, une démarche d'obéissance que Dieu bénit, une démarche qu'il a exigé dans sa parole. Lorsqu'il a été dit à la Pentecôte, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, le baptême est donc une confirmation que les péchés ont été pardonnés. Toute personne qui souhaite se faire baptiser doit avoir la certitude que ses péchés sont pardonnés. Il doit croire de tout cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix à Golgotha pour les péchés, qu'il les a pris de nous, les a jetés dans la mer de l'oubli, oui, effacés par le sang de l'agneau, effacés, qu'il ne peut plus jamais y penser, mais qu'il les a pardonnés et qu'il ne s'en souvient plus, comme le chante un cantique, aussi sûrement que le soleil brille dans le ciel, moi pécheur, j'ai obtenu le pardon. Il doit en être ainsi. Il ne faut pas vouloir d'abord demander au prédicateur ce qu'il en pense, si l'on peut se faire baptiser ou non. On ne peut pas non plus en parler à quelqu'un d'autre. Il faut simplement faire comme à l'époque avec Philippe, Philippe et l'officier. Alors qu'il roulait sur la route, il dit soudain, « Il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui empêche mon baptême ?» Ils descendirent tous deux dans l'eau et il le baptisa. Il doit en être ainsi. Un besoin du cœur de faire la volonté de Dieu, de savoir dans la bonne attitude. C'est une démarche d'obéissance que je fais par amour pour Dieu. Et alors la bénédiction du Dieu Tout-Puissant reposera sur nous tous. Il est donc dit que beaucoup de ceux qui ont été baptisés en Christ ont été baptisés dans sa mort, afin que personne ne vive plus pour soi-même, mais que ce que nous vivons encore maintenant, nous le vivons dans la foi du Fils de Dieu. Nous le vivions dans la foi du Fils de Dieu. Et pour faire un pas de plus, Paul dit, afin que Christ vive en moi. C'est cela, pas seulement une vie en Christ, mais que le Christ puisse vivre sa vie à travers nous tous et qu'il arrive dans notre vie à avoir la première place, oui, et que aussi la dernière lui soit accordée et que ce soit lui qui décide dans notre vie. Je ne sais pas qui veut être baptisé, mais nous voulions le dire avant que nous ne nous contentons pas de baptiser en ce lieu. Nous voulons baptiser des croyants, des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont regardé à Golgotha et qui ont accepté le pardon de leurs fautes et de leurs péchés dans la foi en Jésus-Christ. Comme le chante le cantique, celui qui a vu Jésus sur la croix, dans la foi, sera sauvé à l'heure même. Le salut n'est pas dans le baptême et le pardon n'est pas non plus dans le baptême. Le salut est en Jésus-Christ et le pardon de nos fautes et de nos péchés est dans le sang versé de l'agneau. Mais c'est une démarche d'obéissance, une alliance de bonne conscience avec Dieu, indispensable pour tous ceux qui veulent subsister devant Dieu. Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance, mais maintenant, il ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir, d'être baptisés et d'être remplis ensuite du Saint-Esprit. C'est le modèle divin qui a été donné et fixé à l'Église dès le début, et nous aimerions tous nous y conformer jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. S'il y en a parmi nous qui souhaitent se faire baptiser, mais qui n'ont peut-être pas la certitude finale de l'Esprit de Dieu dans leur cœur, nous sommes volontiers disposés à prendre encore du temps pour prier, mais nous ne voulons pas que quiconque aille au baptême avec des doutes intérieurs, en se demandant si je suis prêt ou non, mais que celui qui se fait baptiser le fasse dans la foi. Nous ne pouvons le faire avec foi que si nous en avons la certitude. Et l'Écriture dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ce qui n'est pas fait par la foi est un péché. Nous voulons donc encourager tout le monde à faire le pas de la foi, le pas de l'obéissance, mais nous ne voulons influencer ou pousser personne. Nous voulons aider dans la prière. Je le répète, s'il y a des frères et sœurs parmi nous, peut-être des nouveaux venus qui n'ont pas encore cette certitude totale du chemin de la foi biblique, nous voulons bien prier avec vous. Et si c'était ici devant que vous receviez cette certitude, et alors nous serions tous heureux pour tous ceux qui peuvent se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Le baptême biblique est uniquement le baptême de ceux qui sont devenus croyants. Le mot petit baptême est totalement faux. Et le mot grand baptême n'est que partiellement correct. Le mot baptême de foi est correct. Jésus dit dans Marc 16:16, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Il s'agit donc d'un baptême de foi. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Nous voyons donc que même la béatitude est apportée en liaison à la foi et au baptême. Sur le fait que personne... J'ai rencontré un homme quelque part de l'autre côté, pas cette fois, lors du dernier voyage, qui voulait dire, oui, écoute, il est seulement écrit, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Il n'est pas écrit que celui qui aura cru et qui n'aura pas été baptisé ne sera pas sauvé. Mais alors écoute, comment lis-tu ta Bible? Comment lis-tu ta Bible? Je lui ai demandé. Il suffit pourtant de lire la Bible telle qu'elle est écrite, mais les gens essaient de trouver une porte quelque part. Il n'y a qu'une seule porte et c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est lui, qu'une seule vérité, c'est celui qui la cherche autrement n'entrera pas, ce n'est pas possible. Et quand il dit celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, je ne cherche pas de ne pas croire et à ne pas être baptisé, je cherche à croire et à être baptisé parce que je veux être sauvé. Mais vous voyez, les gens veulent tout de même trouver leur propre voie, cela n'existe pas. Il n'y a plus de voie ni de volonté propre. Jésus-Christ nous a tous, peut-être peut-on utiliser ce mot, confisqué. Il nous a tous confisqués. Nous sommes à lui pour le temps et l'éternité. Sa parole est la lampe de notre pied en toutes choses. Et il bénira ceux qui sont prêts à marcher dans ses voies, dans l'obéissance et à accomplir ce qu'il a dit. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous tous. Amen. Levons-nous pour prier. Chantons tel que je suis. Comme je suis ainsi, il doit en être. Pas ma force, mais la tienne. Ton sang me lave des péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Loué et remercié soit le Seigneur. C'est écrit dans Matthieu 17, dans l'événement sur la montagne de la Transfiguration. Bien que Moïse et Élie étaient là, Jean, Jacques et Pierre, mais quand la nuée lumineuse est venue sur eux et que la voix a retenti, ils n'ont vu personne d'autre que Jésus seul. Et c'est ce qui nous arrive dans ce temps. Nous sommes reconnaissants pour tous les prophètes, pour tous les apôtres. Nous sommes reconnaissants pour son messager qu'il a envoyé en ce temps. Mais lorsque la nuée lumineuse vient vraiment au-dessus de nous, nous voyons Jésus-Christ marcher, transfiguré au milieu des sept sangliers d'or. C'est lui que nous devons écouter. C'est ainsi qu'il a été dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, vous l'écouterez. Nous l'avons écouté et nous continuerons à le voir et à l'écouter. Louange et merci au Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour les sept étoiles dans sa main droite, mais celui qui marche, celui qui parle, dont la voix était, est et restera comme une trompette, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui reviennent toute louange, tout honneur et toute glorification dans le temps et dans l'éternité. C'est à cela que nous tenons et avec une grande joie. J'ai dû dire en Outre-mer qu'ils ne se sont probablement jamais souciés de donner au Seigneur Jésus la place qui lui revient. Ils se sont toujours bien, plutôt souciés de donner la bonne place à Frère Branham et peut-être même plus que cela. Mais le temps est venu où nous plaçons toutes choses à leur juste place, c'est-à-dire là où elles doivent être, la première place au Seigneur Jésus. Il est le premier, il est le dernier, et entre les deux, il est aussi présent. Là, louange et remerciement. Il est aussi entre les deux, il est tout en tous. Et tous les tous ses serviteurs, il leur a donné la bonne place, et c'est ainsi que nous accueillons de tout cœur et remercions Dieu de la grâce qui nous a été faite de voir et d'entendre ce qu'il avait à nous dire en ce temps. Nous n'avons pas honte du fait que le Seigneur a adressé chaque message à l'ange et qu'il l'a apporté ensuite à l'Église. C'est la vérité. Nous avons entendu la voix du septième ange pendant cette période. Nous avons compris ce que le son de la trompette avait à nous dire à tous ou ce sur quoi il devait attirer l'attention. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour la liberté de l'esprit, pour la clarté dans la parole et pour la suite par le Saint-Esprit. Il fera en sorte que tout se passe bien. Nous avons entendu la parole de la promesse de la bouche d'un homme appelé. Elle est devenue esprit et vie. La puissance du Très-Haut est sur nous. Ce qui naîtra de cette semence vivante de la parole de Dieu sera conforme à l'image de Jésus-Christ. Le jour où il reviendra chercher les siens et suscitera leur admiration. Louange et gloire et grâce soient rendues à son nom glorieux. Père céleste, que pouvons-nous dire? Les mots justes nous manquent pour tout décrire. Comme dans un film, nous voyons se réaliser et s'accomplir devant nous tout ce dont t'ont parlé les saints, prophètes et apôtres. Tout ce que tu as promis. Et c'est ainsi que nous te remercions aussi pour ce service divin, pour le baptême, pour tous ceux qui sont prêts à suivre le chemin de l'obéissance. Nous te remercions aussi pour ce que nous avons vu et vécu outre-mer, pour ce qui a pu être dit. Tu produiras toi-même le fruit pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous ne nous plaçons pas au-dessus de nos frères. Tu es notre chef, notre tête. Nous sommes les membres. Tu es notre tête, mais les services et les tâches sont différents. Et cela, nous devons tous le reconnaître et l'admettre. Et nous y plier et nous y soumettre, car tu achèves ton œuvre en ce temps et tu fais de grandes choses par ton Saint-Esprit. Tu as multiplié les louanges, tu as fait grandir la joie parmi ton peuple. Nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen.